Il était une fois, une émission de Kato Bell, Manu Van Leer et Angélique Tazio.
Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec la conférencière et historienne de l'art Pauline Ponce. Depuis 20 ans, elle initie les adultes et notamment des chefs d'entreprise au monde de l'art. À côté de ce rôle d'initiatrice, elle est aussi fine connaisseuse de l'art religieux, ayant grandi entre une mère catholique férue d'art roman et un père de confession protestante. Angélique Tazio a profité du passage en Belgique de l'historienne de l'art française pour un entretien enregistré au Théâtre de Namur, au sortir d'une conférence de Pauline Ponce intitulée « Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte ?» On l'écoute sur ce sujet.
Depuis 20 ans, je sillonne la France et même l'Europe en me rendant dans des musées avec des chefs d'entreprise qui me commande pas forcément une expertise sur la croûte et le chef-d'œuvre, mais que j'accompagne pour les initier, on va dire, à l'art. Et bien souvent, auprès de ce public, justement, j'ai des questions qui tournent autour de cette question du, au fond, comment savoir si c'est un chef-d'œuvre, est-ce que je perçois vraiment tout ce qu'il faut. Ils ont souvent un sentiment d'illégitimité devant les œuvres. Ils pensent que c'est quelque chose qui est réservé à des spécialistes, par exemple. Et tout mon travail consiste, plutôt que de les conforter dans cette croyance, de les amener par eux-mêmes à apprécier l'art, en ce qui peut leur apporter même quelque chose à la fois de personnel et peut-être même de professionnel.
Alors cette question de la valeur de l'art, hein, d'une valeur éventuelle, elle est somme toute relativement récente.
Vous voulez parler de la valeur marchande de l'art?
Non. Ah, non. Le fait
de se poser cette question.
Oui, si une œuvre a une valeur réelle, si c'est un chef-d'œuvre.
Oui, en fait, ça traverse quand même la pensée d'un certain nombre de philosophes occidentaux. Et on pense à Kant au premier chef, puis à Hegel quand même. Ça a énormément occupé... la réflexion en tout cas de certains de nos philosophes occidentaux, mais je dirais qu'effectivement cette question s'impose davantage dans les esprits au moment de l'explosion des musées et de leur fréquentation surtout.
Et donc là on peut plutôt situer le milieu du 19e.
C'est ça, à partir en gros des années 1830.
Le Louvre va jouer un rôle particulier avec le fameux salon qui remporte un franc succès.
Absolument, oui. Il y avait traditionnellement des expositions qui se tenaient au Louvre, à l'époque des rois de France déjà, depuis le XVIIe siècle. Mais au lendemain de la Révolution française, on a ouvert le salon carré, d'où le nom aussi de salon, à un grand nombre d'artistes qui arrivaient à passer entre guillemets le cap du jugement, justement des jurys officiels qui siégeaient pour faire une sélection, voilà, précisément des meilleurs artistes selon leurs critères, bien sûr.
Pour seconder les spectateurs, les témoins de ces œuvres d'art, sont apparus à la fois des critiques d'art et des experts. Et leur rôle va d'emblée être important, et on le voit encore aujourd'hui.
Oui.
Ce sont des influenceurs.
Ce sont des influenceurs. Voilà, ils peuvent avoir différentes places dans la société parce que certains d'entre eux sont très célèbres. Ça a commencé avec Diderot au XVIIIe siècle. Il y a eu Zola qui a commencé aussi comme critique d'art. Et puis peut-être le plus célèbre d'entre tous, c'est Baudelaire. Baudelaire qui a beaucoup aussi joué ce rôle en son temps.
La peinture religieuse a marqué les esprits. Elle va tomber dans une forme d'oubli ou de non-pratique. On la reconnaîtra comme un chef-d'œuvre temporel. Mais pourquoi est-ce que les artistes vont se détacher de ce type de peinture ?
Ah ben, je pense que ça correspond vraiment à un mouvement plus général, c'est que l'Église elle-même perd sa place, on va dire, dans la cité au lendemain de la Révolution française. Donc, faut vraiment se rappeler que sous l'Ancien Régime, elle constituait un des commanditaires principaux avec l'aristocratie. Et puis, la Révolution récupère les biens et les redonne. Enfin, en tout cas, ça c'est le discours républicain. Les redonne au peuple. Le musée devient ce lieu de formation du citoyen. Et du coup, l'Église n'a plus ce rôle à jouer non plus de propagande. Alors, quand je dis propagande, je pense au terme étymologique, hein, propagere fides, la peinture ayant été pour l'Église un levier extraordinaire. La peinture et la sculpture, hein, si on pense au XVIIe siècle et à tout l'art de la contre-réforme. Et évidemment qu'au lendemain de la Révolution française, l'Église est affaiblie et en tout cas reléguée à un rôle mineur. Et de fait, elle n'a plus ce pouvoir de mécénat qu'elle avait avant.
Pendant tout un temps, la tradition et la référence, y compris religieuse, a été rassurante en termes de critères de sélection d'une œuvre.
C'est vrai, rassurante. Et puis, aussi, il fallait prendre en compte le contexte dans lequel on découvrait ces œuvres. Caravage à Rome est présenté dans des églises, le Bernin aussi. Je pense que voilà, l'œuvre avait aussi une aura particulière dans un écrin particulier qui induisait aussi une attitude particulière. C'est un lieu de prière, l'église, donc c'est un lieu aussi de silence. Et ma foi, c'est quand même un comportement qui peut être aussi favorable à l'admiration d'un chef-d'œuvre. Donc il y avait quelque chose, voilà, qui tenait, ça tenait ensemble. L'art s'appréciait dans un contexte aussi religieux pour ces raisons-là.
Pauline Pons, peut-on être touché par une œuvre sans la comprendre?
Ça, c'est une question qui mérite un développement. On peut être touché, je pense même que c'est le propre de l'art de toucher avant même de comprendre. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs nous tous on en a fait l'expérience, on a des larmes qui viennent, on a des palpitations, il y a même des syndromes stendhaliens où on a le vertige, enfin vraiment quelque chose de physique très fort. Même les grands historiens d'art, justement, qui sont des savants, quand ils parlent de leur chef-d'œuvre, on croirait qu'ils nous parlent de leur maîtresse. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'apparente à un coup de foudre. L'approche de l'art, de leur maîtresse ou d'un dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui dépasse la rationalité.
Est-ce qu'on peut dire que les musées sont d'une certaine manière de nouveaux temples, avec leurs codes?
Je pense qu'ils l'ont été, en tout cas dans la période qui a suivi la Révolution française. Quand on regarde l'architecture des musées, que ce soit à Berlin, à Londres, à Bruxelles, à Paris, etc., on sent que le Parthénon, le Panthéon sont des modèles pour ces architectures dont on doit gravir des marches. C'est comme si on nous préparait aussi à une élévation spirituelle. Et puis, il y a l'atmosphère qui régnait aussi dans ces musées avec ces parquets cirés. Je pense à la citation de Paul Valéry, « Mon problème avec les musées », c'est dans un texte qui est resté célèbre aujourd'hui. Il parle ainsi du musée, il dit « Bientôt, je ne sais plus ce que je suis venu faire dans ces solitudes cirées qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et de l'école. » Voilà, je crois qu'il saisit admirablement toute l'ambiguïté de ces lieux qui pouvaient être à la fois des lieux, on l'a dit, semblables à une église de recueillement, de silence, un peu intimidant d'ailleurs, comme, et ça il faut se référer à Baudelaire et aux impressionnistes, des lieux où on se donnait rendez-vous pour parler de peinture, pour discuter, et là on est plus du côté du salon, et pourquoi pas du salon mondain à la Proust. Voilà, Baudelaire il donne rendez-vous à sa mère au Louvre, parce qu'il dit ici c'est un lieu fréquentable, je vais pas te dire de me retrouver dans un café, etc. Pour beaucoup d'artistes, le Louvre est ce lieu où ils vont en quelque sorte trouver le calme après la tempête. La création, c'est quelque chose qui les met dans une tension. Ils doivent s'affranchir de beaucoup de choses, ils doivent se débarrasser de beaucoup de choses s'ils veulent créer. Au fond, c'est au contact justement de ceux qui ont traversé les siècles et qui sont pour toujours dans ce cimetière dont parle Valérie, qu'ils retrouvent la force de repartir dans la combativité que requiert la création.
Et puis au sein de ces musées se retrouvent ceux qui connaissent, ceux qui savent, les experts.
Absolument. Les experts et les artistes ne sont deux catégories quand même bien distinctes. C'est-à-dire que les artistes ont toujours aussi, contrairement à ce qu'on imagine, eu plaisir à débattre sur l'art, et à faire mentir cette formule comme quoi eux, leur domaine est celui de l'art exclusivement. C'est pas vrai, voilà. Si on se retrouve au Louvre, c'est aussi pour discuter, pour échanger entre pairs. Le critique d'art, lui, s'il fallait le définir, doit s'extraire en quelque sorte des modes, des écoles, et peut-être même de son propre goût personnel pour jeter sur son époque générale un regard prétendument objectif. Est-ce qu'il y arrive ? C'est pas si sûr. J'en suis pas si sûre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il prétend faire. Et donc, d'où le conflit qu'il y a aussi entre les artistes et les critiques d'art.
Et quand vous dites pas si sûr, c'est parce que les experts sont aussi marqués par le ton qui est le leur.
Exactement, ils sont pas aussi infaillibles qu'ils croient l'être. J'ai presque envie de dire heureusement d'ailleurs. On regarde toujours une œuvre d'où l'on vient, et l'œuvre elle-même appelle en nous des choses qui sont très très intimes, qui appartiennent à l'histoire collective, à notre histoire personnelle, on le sait tous. Et je vois pas pourquoi les critiques d'art seraient à part et, comment dire, dispensées même d'engager leur propre subjectivité dans le jugement esthétique. C'est pas possible, et c'est une bonne nouvelle que ça ne soit pas possible.
L'art mène-t-il à la spiritualité ?
Alors, si on se place du côté de l'historien spécialisé dans la période du Moyen-Âge, art et spiritualité ne font qu'un. Pendant 1000 ans, il n'y avait pas d'art profane d'ailleurs, et les œuvres que nous jugeons artistiques aujourd'hui étaient des véhicules, si je puis dire, pour l'âme, étaient censées nous amener vers Dieu, que ce soit dans l'architecture, la musique ou la peinture. Il y a beaucoup à dire sur cette question, beaucoup, beaucoup. L'Église, évidemment, a joué son rôle, on en parlait tout à l'heure. Elle a parfaitement compris cette dimension transcendantale, j'ai envie de dire, de l'art. Et l'Église, c'est peut-être mieux que quiconque, que pour aborder la question divine, ce n'est pas la seule raison qui va nous permettre d'entrer justement dans la spiritualité. Et de ce point de vue-là, elle a trouvé pendant des siècles une alliée, ou un allié, je ne sais pas, l'art, est extraordinaire, parce que précisément, les artistes œuvrent aussi pour ouvrir quelque chose en nous qui s'apparente, certains appellent ça la spiritualité, d'autres le sacré, d'autres encore l'inconnu, l'invisible, je ne sais pas comment le nommer. Et l'Église était au courant de ça et savait que l'art était d'une certaine manière une porte ouverte sur cette dimension. À l'inverse, il y a eu dans l'Église les iconoclastes, hein, ceux qui ont condamné les images, toutes les guerres de religion aussi qui ont eu lieu autour de cette question, enfin bref. Et l'art ne devait pas être trop sensuel, ne devait pas être trop émouvant, ne devait pas être trop charnel, etc. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. C'est une histoire un peu d'amour, mais entre l'Église et les artistes, mais aussi avec pour le coup, on pourrait aussi reconnaître à l'Église une volonté, un moment, d'appliquer à l'art, c'est ce qu'on appelle le Concile de Trente, des directives un peu naïves, quoi. L'art doit éduquer le croyant, l'art doit séparer le profane du religieux, l'art doit parler directement au cœur du croyant. Donc le Caravage, par exemple, va répondre à certains de ces critères. Et puis, par ailleurs, on le sait tous aujourd'hui, le Caravage est admiré dans notre époque contemporaine pour sa dimension sensuelle et presque sexuelle, j'ai envie de le dire, donc qui pourrait paraître complètement antinomique avec l'aspiration spirituelle de l'Église du XVIIe. Et pareil du Bernin avec l'extase de Sainte Thérèse. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Mon expérience m'amène à penser que les religieux, ceux qui croient en Dieu, ne sont pas forcément les meilleurs commentateurs des œuvres religieuses, parce qu'ils vont vouloir y trouver absolument une interprétation, un commentaire biblique, et de ce point de vue-là, enfermer l'œuvre un petit peu, enfin la réduire justement à quelque chose qui relève davantage de la communication que de l'art universel dont nous parlions tout à l'heure. Et ça, il y a un homme très important au XXe siècle qui s'appelle le Père Couturier, qui a compris ça, et qu'il a tellement bien compris que lui-même a décidé pour des projets qui aujourd'hui sont au patrimoine de l'UNESCO, au minimum monument historique en France, de faire aussi appel plutôt à des artistes, alors athées, je ne sais pas, c'est pas le mot qui convient forcément, mais en tout cas qui ne revendiquent pas d'appartenance religieuse. Et donc le Père Couturier, de faire appel à Le Corbusier pour le couvent de la Tourette, l'église de Ronchamp, Matisse pour la chapelle de Vence, etc., etc. Et précisément parce que là, il a posé, je trouve, quelque chose de fort. Il a dit, voilà, non seulement il ne suffit pas d'être religieux pour apprécier l'art sacré, mais il y a dans l'art des mystères qui nous dépassent tous, et au fond, il vaut mieux aller chercher ceux qui côtoient ces mystères, ceux qui les mettent en scène, ceux qui leur donnent une apparence sensible, pour accéder plus directement à Dieu. Et là, c'est fabuleux, parce que des artistes comme Matisse, à la fin de sa vie, Matisse a dit « Quand je peins, je suis religieux ». Donc, la boucle est bouclée, Picasso lui en voulait, et Matisse lui a dit « Non, je suis sûre qu'au fond de vous, vous recherchez aussi la quiétude de la première communion, et moi, quand je peins, je veux provoquer ça l'admirateur, l'amateur d'art, je veux qu'il soit dans cet état de quiétude, de paix intérieure forte, pour accéder à cette dimension universelle de l'art. » Voilà, donc il y a pour moi un élan très intéressant à regarder du côté du Père Couturier, qui est un dominicain au XXe siècle, parce qu'il a voulu sortir l'Église de l'art Saint-Sulpicien, d'une part, qui faisait ravage à la fin du XIXe, et de l'appauvrissement, précisément, de l'art sacré, comprenant parfaitement que non, il fallait les meilleurs artistes pour voir le céleste, hein, voir les anges même, j'ai envie de dire. Donc voilà, un Chagall qui est juif, et je crois même qu'on a fait appel à Fernand Léger, a été sollicité. Voilà, ils ont tous un moment eu à cœur, Bazaine, bien sûr, soulage avec les vitraux à Conques. On leur a pas demandé un certificat de première communion. On a compris que dans leur art, il se passait quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture vers un monde qui ne saurait en aucun cas se limiter à l'expression rationnelle et à la compréhension, justement, qui dépasse complètement la compréhension. Voilà, on n'est pas dans la compréhension devant une œuvre d'art, c'est d'où votre question, excusez-moi si je suis très longue, mais voilà.
Le spectateur d'une œuvre d'art doit-il lui aussi être dans une ouverture particulière pour être touché ?
Pour le coup, c'est votre question qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose que je vis pour le coup avec parfois une relative souffrance, faut peut-être pas exagérer, mais j'ai un problème actuellement avec les musées qui rencontrent trop de succès et je vais parler là de l'affluence. Vous avez vu que nos ancêtres subissaient déjà, hein. Je ne pense pas personnellement qu'on, je ne suis pas la seule du tout, hein, mais qu'on puisse apprécier une œuvre d'art à sa juste valeur dans un brouhaha digne de la gare du Nord. Il y a quelque chose dans le musée qui a à voir, et là encore Valérie a raison, si ce n'est avec le temple, avec le cimetière, dans la mesure où ce sont des œuvres qui sont coupées de la circulation de la vie, elles vont plus repartir dans la société, elles sont là pour l'éternité, entre guillemets. Et du coup, nous sommes au contact de la mort, en fait, quand on va au musée. Ça, c'est Malraux, hein, qui dit qu'il n'y a pas de création sans conscience de la mort. En fait, que la création n'est simplement que l'expression de la conscience de la mort, d'où l'enquête existentielle dont je parlais, voilà, à l'instant. Un musée, c'est le lieu d'une enquête sur notre vie, c'est-à-dire sur notre mort. Mais non, mais parce qu'il y a, il faut parler quand même d'un phénomène de notre époque qui est le tourisme de masse, même si ça fait très élitiste d'en parler. J'ai un problème avec ça, moi. J'ai vraiment un problème avec ça. Et je pense qu'il va falloir que les musées réfléchissent à d'autres formes d'accès à l'art au XXIe siècle pour échapper à ce phénomène.
Ce que vous dénoncez, c'est un peu cette course-poursuite d'après un nombre toujours grandissant de visiteurs et aussi une marchandisation sous de multiples formes. Hein. On connaît tous les cendriers, les tasses... enfin, les mugs,
les cravates,
voilà, les coussins, les voire les foulards, mm-hmm. hein, aux couleurs, enfin,
de l'impressionnisme.
Voilà.
Oui. Là, je pense qu'on nous prend parfois un peu, je sais pas moi. Enfin, je veux dire, les musées ont besoin de s'autofinancer actuellement. C'est très clair. Et donc, c'est parfois difficile de quitter un musée sans passer par la boutique, hein, vous avez remarqué. Donc, il y a comme une sorte d'injonction à acheter quelque chose. Alors même que, à l'instant d'avant, on nous a interdit de toucher, de parler, d'échanger. Voilà, il y a un paradoxe dans les musées, parce qu'ils nous remettent de plein fouet dans la société de consommation. J'ai quelque chose aussi là qui percute un peu la je vais pas dire la contemplation, mais enfin voilà, on ne sait plus trop où on en est quand on sort d'un musée de ce point de vue là.
Est-ce que ce n'est pas une manière de s'approprier l'œuvre puisqu'on ne peut pas la toucher, qu'on ne l'aura jamais chez soi? C'est une manière de ramener un petit bout de la Joconde ou
C'est très vrai, c'est très vrai. Et moi qui vous dis ça, je ne suis pas la dernière à acheter un petit carnet, souvenir. Avant, j'achetais systématiquement des cartes postales parce que je voulais, comme vous dites, avoir un souvenir de l'expérience que j'avais eue. Si, sans doute, ça répond à ça, bien sûr, oui.
Pauline Ponce, nous arrivons au terme de cette émission. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs belges, par exemple, de manière assez succincte, mais les différences qui vous sont apparues avec l'art peint en Belgique?
Ah ben moi j'aime particulièrement en fait l'art de l'Europe septentrionale. Hein, on va, j'associe, bah, j'étais, je vous disais, à Bruxelles cet après-midi, donc j'ai revu les Bruegel avec une délectation particulière. Voilà, ce que j'aime particulièrement dans les Flandres, c'est le refus de l'idéal. Et vous voyez, pourtant j'adore l'art italien, hein, mais et l'art français aussi, mais quand je parle du refus de l'idéal, c'est que ce qui me touche le plus ici, c'est quand voilà, Bruegel parle de la fuite en Égypte ou du recensement ou même d'un sujet mythologique comme la chute d'Icare, en mettant au premier plan le paysan qui est en train de passer la charrue, le pêcheur, les villageois qui sont en train de pétrir le pain, etc. C'est-à-dire que ça, je dois dire que c'est mon intime conviction, et je suis complètement fan de Van Gogh aussi, c'est de trouver le sublime dans ce que certains appelleraient le banal. Pour moi, le sublime est dans le quotidien, le plus quotidien. Et ce que l'art a le plus à nous apporter, c'est cette capacité d'admiration à l'égard de tout ce qui nous environne, et de libération à l'égard aussi des hiérarchies, du beau, du moins beau, etc. En fait, je trouve que quand on monte, plus on monte dans le nord, et plus on est libre, en fait. Voilà. Et encore une fois, l'art italien a produit des chefs-d'œuvre extraordinaires, mais je me sens, pour ma part, plus proche de quelqu'un qui va prendre des mineurs, des mangeurs de pommes de terre comme modèle, que des Vénus hypothétiques qu'on risque de jamais croiser dans la rue, etc. Et je préfère voir la beauté dans la terre cuite plutôt que dans le cristal. Voilà.
Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez retrouver le travail de Pauline Ponce, sachez qu'elle est l'autrice du livre « L'art pas bête pour les 7 à 107 ans » publié chez Bayard Jeunesse en collaboration avec le musée d'Orsay. À très bientôt pour une prochaine rencontre.